Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café LNH, le balado de LNH.com. Nicolas Duchamp derrière le micro, heureux de vous parler en ce 10 avril, alors qu'il reste seulement 8 jours à faire à la saison de la LNH, peut-être même moins si vous ne nous écoutez pas mercredi. Donc ça sent le printemps, ça sent les séries éliminatoires. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de la victoire des Canadiens de mardi contre les Flyers de Philadelphie, une victoire de 9-3 qui fait que les Flyers, ça sent la... Les carottes sont peut-être cuites là, pour les Flyers dans la course aux séries éliminatoires. D'ailleurs, on va en parler de la course aux séries éliminatoires, bien évidemment, là aujourd'hui, dans le balado avec mes invités, Jean-François Chaumont et Guillaume Lepage. On va aussi discuter, on va vous donner des nouvelles de Lane Hudson, l'espoir du tricolore, d'Anthony Duclair du Lightning, et des séries éliminatoires dans la Ligue de hockey junior maritime Québec. Finalement, on va aussi débattre ensemble les trois des trophées. Hein, qui devrait remporter les différents trophées de la Ligue nationale de hockey à la fin de la saison. Donc, c'est ce à quoi va ressembler le balado aujourd'hui. Chers auditeurs, si vous nous écoutez sur le site web de LNH.com, sachez qu'on est disponible sur toutes les plateformes de diffusion. Faites une recherche, la tasse de café LNH, vous allez pouvoir nous trouver, vous allez pouvoir nous écouter lorsque vous êtes en déplacement sur votre mobile ou peu importe. D'ailleurs, abonnez-vous parce que le prochain balado ne sera pas mercredi prochain, on fait une exception parce que les séries éliminatoires vont s'amorcer, ça va s'amorcer samedi, là, le 20 avril. Donc, on va avoir un balado qui va être diffusé probablement jeudi soir ou vendredi matin, là, tout dépend. Donc, si vous voulez être certain de ne pas le rater, là, abonnez-vous pour être informé lorsque celui-ci va être en ligne. Alors, aujourd'hui à l'émission, j'ai avec moi Guillaume Lepage. Comment tu vas, Guillaume?
Ça va bien, toi, Nick?
Ça va très bien, très bien. Merci d'être avec nous de ton condo en Floride. Tu nous fais cette...
J'irai pas jusqu'à dire mon condo, mais je suis dans un condo.
Ouais.
Je suis pas rendu à ce stade-là.
Petite pause de vacances pour être avec nous aujourd'hui sur la tasse de café. Et JF Chaumont, comment tu vas, JF?
Très bien. Bon matin à vous deux, les gars.
Bon matin. Les gars, je vais commencer. On va lancer l'émission en parlant de ce qui s'est passé hier du côté du Centre Bell. JF, tu étais à la couverture. J'y étais moi aussi pour la couverture pour LNH.com. JF, Maurice Richard... Le jour de son déménagement a marqué 5 buts. Ça revient dans la légende du Rocket. Est-ce que Juraj Slafkovský hier, qui a mal dormi, qui a le rhume, qui ne se sentait pas bien et qui marque 3 buts, ça va commencer lentement à s'écrire dans la légende de Juraj Slafkovský ou il ne faut pas trop s'emporter malgré cette soirée quand même très intéressante du joueur qui a seulement 20 ans et 10 jours?
Oui, seulement est très important dans la phrase. Mais Juraj Slafkovský n'a pas fait de boîte, déménageait pas, mais comme tu le disais, un rhume, le nez qui coule, incapable de s'endormir pour sa sieste. Quand il est arrivé au Centre Bell, il ne s'attendait pas à connaître un match aussi festif. Son premier tour du chapeau en carrière, c'est 17, 18e et 19e but. Je pense pas qu'il y a quelques mois, on aurait parié sur une probable saison de 20 buts pour Juraj Slafkovský. Jaroslav, c'était Alak, c'est un autre Slovaque.
Mais
c'était
une belle...
Ou Spachek.
Celui qui vous va.
Spachek, c'est un check, mais on est dans
c'est
le même
check.
Coin. Mais c'était quand même une belle soirée au Centre Bell. Honnêtement, la foule était très, très, très bruyante. Puis on voyait que Slafkovský, après le match, il avait encore son sourire de gamin quand il nous parlait de sa rencontre. Une grande fierté pour lui de marquer un tour du chapeau. Mais c'est le classique de dire « Je suis encore plus content de la victoire de l'équipe. » Quand on lui demande lequel de tes 3 buts as-tu préféré? Est-ce que c'était le premier où il se place devant le filet, redirige un tir sans trop le vouloir de Mike Matheson? Le deuxième où c'est une passe parfaite de Nick Suzuki? Ou le troisième en échappée où il déjoue Ersen d'un tir bas du côté du bloqueur? Slafkovský est modeste en disant, pour être franc, je vais dire le troisième parce que sur ce jeu, c'est Raphaël Harvey-Pinard qui me permet d'obtenir l'échappée en y allant d'un bon changement. Et Harvey Pinard avait frappé Eric Johnson, qui a pris environ 28 secondes à se relever puis revenir dans le jeu. Donc, ça démontre aussi le côté gars d'équipe dans le cas de Juraj Slafkovský. Ça fait du bien. En fin de saison, on se cherche des histoires. Mais hier, merci à Juraj. Il nous a permis d'écrire un petit peu plus librement.
Tu l'as dit, mais je t'ai regardé quand il y a eu ce troisième but-là. Puis j'ai fait « Oh, il me semble que je n'ai pas entendu Centre Bell bruyant comme ça de toute la saison. » Il y a de quoi qui se passe avec Slafkovský, là. Lentement, mais sûrement, ce joueur-là, sais, je veux pas parler de plafond ou peu importe, mais à seulement 20 ans et 10 jours quand même, il y a une progression qui est claire et nette vers un joueur, un type de joueur qui, je trouve qu'il est encore plus fort avec son corps, il est plus à l'aise, il en manque encore un peu. Mais tu sais, qui sera peut-être pas Connor Bedard, mais qui va peut-être être un attaquant de puissance de très haut niveau dans la LNH.
Oui, bien absolument. Là. 20 ans, 10 jours, hier, on lui faisait mention qu'il devenait le deuxième plus jeune dans la grande histoire du Canadien à obtenir un tour du chapeau. Stéphane Richer a le record à 19 ans et des poussières. Guy Lafleur suit. Puis Slafkovski nous a regardé en riant en disant « OK,
Stéphane Richer,
une autre,
peut-être. »
Non, il connaissait les noms, mais il disait « Une autre bébelle, comme encore vous me parlez de chiffres. » On sent qu'il n'y avait pas une grande passion au niveau de cette marque-là. Mais hier soir, le collègue Eric Angels, qu'on surnomme gentiment « Sœur », parlait avec Slav, puis lui faisait référence à Mikko Rantanen. Au cours de l'été, Slafkovski a regardé beaucoup de vidéos de Mikko Rantanen. Si on regarde uniquement le physique, Slafkovski, c'est 6'3", 230 livres. Rantanen, si ma mémoire est bonne, est 6'4", certainement plus de 220 livres. Il disait que oui, ça peut être probable. C'est un joueur vers qui il veut s'inspirer. Mais il continue à dire, je veux devenir Juraj Slafkovski. Mm-hmm. Je ne veux pas devenir la copie d'un autre joueur de la Ligue nationale. Son plafond, très difficile de le prédire, mais c'est maintenant plus que réaliste de croire un marqueur de 30 buts et plus. C'est un joueur qui, au sein de son trio avec Suzuki et Caulfield, il est très, très, très visible en récupération de rondelles. Puis on commence à voir qu'il comprend, il réalise qu'il est grand, qu'il est gros.
Ouais, c'est ça.
La quantité de mise en échec qu'il réussit à faire comparativement à l'an dernier ou en début de saison, c'est le jour et la nuit.
Ce qui m'impressionne le plus dans son cas, je pense que c'est la constance qu'il affiche depuis, plus de 30 matchs. Là, on pouvait regarder ça quand il a commencé cette séquence-là, se dire bon, c'est une histoire de 5 matchs, il va ralentir. C'est l'inconstance pour les jeunes joueurs, c'est quand même assez fréquent. Mais de le voir poursuivre comme ça depuis ce moment-là, c'est ça qui m'impressionne le plus. Puis c'est ce qui me laisse croire que bon, c'est pas une petite passe chanceuse, puis c'est vraiment quelque chose qui pourrait se reproduire sur le long terme. Donc, moi, c'est Juraj Slafkovski, on en parle à chaque balado, mais pour moi, c'est la révélation de l'année chez les Canadiens. Il n'y a aucun doute que c'est très rassurant de voir ça dans ce processus de reconstruction.
Tu parles de constance dans ces 15 derniers matchs. Il y en a seulement deux où il n'y a pas de points. C'est pas rien là, pour un joueur qui a eu un début de saison tellement difficile. Oui, qui faisait les bonnes choses. Puis, je pense que dans le discours des entraîneurs, dans le discours de tout le monde, disait ça va venir éventuellement. Les pions sont placés au bon endroit. Là, il reste juste à mettre en place que tout tombe en place, que les pièces du casse-tête tombent en place. Puis c'est ce qu'on voit présentement là, dans le cas de Slafkovski, à mon avis. Là.
Il y a le premier mois et demi peut-être de la saison où c'était plus difficile. Slafkovski est le premier à le reconnaître. Il se cherchait, se posait des questions. Puis il y a eu un déclic. Coup de chapeau à Martin Saint-Louis aussi qui a eu le courage de le placer à la droite de Caulfield et Suzuki à un moment où Slafkovski ne roulait pas un rythme d'enfer. Martin Saint-Louis, Suzuki se sont dit bon, on va travailler avec lui. Il a le potentiel. On va l'aider à débloquer. Puis Guillaume fait bien de le mentionner. Là, plus d'une fois cette année, Slafkovski est parti sur des séries de 8-9 matchs d'affilée avec un point. C'est une belle constance pour un jeune joueur. Puis ce que j'aime, c'est son désir. Il en veut toujours plus. Jamais Slafkovski va dire « OK, c'est correct. C'est une belle saison. Je cogne à la porte des 20 buts. Je cogne à la porte des 50 points. Un premier tour du chapeau. » Sa réponse est tout le temps « Mais je peux encore mieux jouer. Je peux en donner plus à cette équipe. »
S'il y en a qui n'en ont peut-être pas donné assez, c'est assurément les Flyers de Philadelphie. Je suis allé du côté du vestiaire hier. Bon, c'était le match le plus important de la saison des Flyers. Si on voulait rester dans la course, on se devait de gagner celui-là afin que le match suivant devienne le plus important, puis le match suivant devienne le plus important. Et là, avec cette cuisante défaite, puis JF, tu l'as vu, là, je veux dire, c'est une équipe qui s'est tout simplement pas présentée hier. Là. Défensivement, c'était erreur par-dessus erreur, c'était surnombre par-dessus surnombre, c'était pas d'intensité. Tu as parlé, tu as nommé le but de Slafkovski ou avec Eric Johnson qui s'était affreusement long sur le repli. Jamie Drysdale qui, ça va être je pense que l'été va lui faire du bien à Jamie Drysdale parce qu'hier a terminé la soirée avec moins 5 plutôt.
Moins 6.
Donc, comme si ça en prenait un de plus. Et je suis allé dans le vestiaire par après et j'ai vu une scène que moi, j'avais jamais vu ça. Puis on s'est renseigné au niveau des collègues qui sont à la couverture depuis longtemps. Puis on nous disait, depuis Alain Vigneault en 99, c'était quelque chose qui n'avait pas été vu dans un vestiaire à Montréal ou sur la route là, pour ceux qui couvraient. Mais tous les joueurs étaient encore en uniforme à leur casier lorsque les journalistes sont arrivés. Ce qu'on voit pas habituellement, déjà, la moitié des joueurs sont partis aux douches, puis il y en a quoi, trois qui vont parler?
Le trois quarts, Nick, tu peux...
Oui, c'est ça, exactement. C'est ça, exactement. Donc, habituellement, il reste le capitaine et un ou deux joueurs, là, puis c'est avec eux qu'on va discuter. Et là, tout le monde était là, et Sean Couturier a pris la parole. On lui a demandé, bien évidemment, comment t'expliques ce qui vient de se passer. Sa réponse, on n'a pas d'explication, on peut pas dire. Et bon, on se demandait, on posait la question, qui est responsable, qui a demandé aux joueurs de rester là? Couturier a dit que c'était une décision de l'organisation avec beaucoup d'hésitation, disons-le. Mais après ça, on a été discuter avec John Tortorella et on a compris, bon, ça venait de qui? Tortorella a dit tout simplement, faut qu'il réponde aux questions. Malheureusement, on a eu accès à seulement deux joueurs. On nous a gentiment montré la porte pour aller parler à Tortorella. Mais c'est une équipe, les Flyers, qui s'est totalement effondrée en fin de saison. C'est une équipe qui va visiblement rater les séries éliminatoires avec ce qui vient de se passer. Mais moi, ce que je vous demande, c'est il se passe quoi avec cette équipe-là, avec une telle fin de saison? Alors qu'il y avait beaucoup de positifs autour de cette équipe-là. C'est une équipe qui a joué au-dessus de sa tête à Montfrançais cette année. On les attendait dans le fond du classement. On les attendait parmi le top 5 probablement à la loterie, gros choix de repêchage. Et on a réussi à être dans la course jusqu'à la fin, mais cette fin de saison-là, avec les nombreuses sorties de Tortorella, qui s'en est pris à son capitaine, entre autres, qui l'a laissé de côté, qui s'est pris à tous les joueurs, mais en plus, qui de l'autre côté tentait un peu de jouer le bon gars en disant « c'est de ma faute si j'ai pas réussi à placer l'équipe », les joueurs leur faire comprendre qu'ils devaient élever leur niveau de jeu. Il me semble que Tortorella, tu sais, partout, présentement, ça donne pas de résultats, puis est-ce que l'été va être suffisant pour tourner la page sur ce qui vient de se passer du côté des Flyers, selon vous?
Ben, c'est une bonne question. Est-ce que l'été sera suffisant? Mais c'est une équipe qui avait déjoué tous les scénarios probables. Ils étaient beaucoup plus hauts au classement qu'on pouvait anticiper. Et fin mars, mi-mars peut-être, et jusqu'à présent, c'est l'effondrement total chez les Flyers de Philadelphie. Hier, la structure défensive des Flyers, c'était un gros zéro. Jamie Drysdale qui finit à moins 6, il a le numéro 9. Il était chanceux, il s'est pas rendu jusqu'à son numéro, mais il était pas loin. Nick Seeler est à moins 5. Eric Johnson, match difficile. Mark Stahl, match difficile. Sans méchanceté pour Mark Stahl et Eric Johnson, on parle de deux défenseurs qui ont connu une belle et longue carrière, mais ils sont beaucoup plus proches de la retraite que le contraire. Ça paraissait hier soir. C'est une équipe qui n'avait aucun engagement. Il y a eu quelques occasions de marquer en début de match, mais après ça, le feu s'est éteint très, très, très rapidement. Je me souviens de propos avec Daniel Brière à l'époque où je travaillais encore pour le Journal de Montréal. J'avais réalisé une longue entrevue avec Daniel. Puis Brière disait, on ne changera pas notre philosophie, même si on se bat. Et en ce moment, ils avaient une place en série. Ils disaient, on garde la mentalité d'une équipe qui est en reconstruction. À la date limite des transactions, ça s'est vu un petit peu cette stratégie. Les Flyers ont essayé d'acheter à rabais et de vendre au même moment. Ils ont échangé Sean Walker, qui était quand même une pièce importante à la ligne bleue. Puis on dirait qu'il y a eu trop d'histoires parallèles en dehors de la glace qui sont venues perturber le vestiaire. Tortorella, ça doit marcher à sa façon. Puis Brière le dit souvent, c'est un gars qui a un côté très humain. Puis il déteste quand on montre son côté bon garçon. Il aime mieux garder son image de tough.
Oui.
Mais on dirait que ça casse en cette fin de saison. Il n'y a plus de réponse. Puis même hier, les Flyers donnent 9 buts. Hurson en donne 5 sur 17 tirs. Mais c'est tellement des jeux pratiquement impossibles pour lui à arrêter. Devant lui, il n'y avait rien qui se passait. Fedotov, c'est correct. Il est grand. Il mesure 6 pieds 8. C'est beau. Mais c'est pas encore la réincarnation de Pelle Lindbergh pour les Flyers. Je crois que les Flyers se dirigent où ils devraient être, c'est-à-dire c'est une équipe en reconstruction. J'ai hâte de voir aussi si l'échange Cutter-Gauthier-Jimmy Drysdale à long terme pourrait venir hanter cette équipe.
Ouais, parce que là, hier, c'était une septième défaite consécutive là, dans le cas des Flyers.
Je pense deux fois contre les Canadiens. Hein?
Deux fois contre les Canadiens, exactement.
Contre une équipe qui est aussi en reconstruction, tu sais, que c'est une proie facile. Ben, théoriquement facile pour une équipe qui est dans le portrait des séries, mais ça démontre à quel point il n'y a plus rien qui marche.
Non, à vrai dire, on a perdu contre les Blue Jackets aussi, 6-2. Samedi, il manquait 11 joueurs réguliers dans la formation des Blue Jackets. Tu sais, tu te relèves pas d'une défaite comme ça en pleine course aux séries éliminatoires. C'était le sixième match de suite que les Flyers étaient en déficit après une période. On aurait eu besoin du premier but hier pour au moins nous donner un minimum de confiance. L'attaque fonctionne pas à Philadelphie, mais là, en plus, c'est la défensive qui est dernière dans la Ligue depuis la mi-mars environ. Tu sais, tu as parlé d'Urson, mais Urson, c'est un gardien qui avait 12 matchs d'expérience avant le début de la saison. Depuis que Carter Hart n'est plus là, c'est lui le premier, mais c'est lui le numéro un, mais je veux dire, il n'a pas le pedigree d'un numéro un. Donc, il y a plusieurs choses. Comme tu as dit, GF, cette équipe-là va rater, à mon avis, là, à moins d'un petit miracle, là, va rater les séries éliminatoires. Mais comme je vous disais, je ne sais pas si on va être capable de revenir fort de ça l'année prochaine ou s'il y a quelque chose qui a cassé puis ça va être difficile de repartir sur le bon pied qu'on avait. Ça va prendre un bon été de repos et de golf. Là.
Mais quand tu veux juger du caractère d'une équipe, Guillaume parlait depuis pas le match d'hier, mais l'autre match à Montréal, c'était une défaite de 4-1 contre le Canadien, en pleine course aux séries, ensuite 5-1 contre les Blackhawks. 4-3 en prolongation contre les Islanders, peut-être le seul bon match des deux dernières semaines pour eux. 4-2 contre les Sabres, 6-2 contre les Blue Jackets, 9-3 contre le Canadien. C'est une équipe qui techniquement se bat encore, mais on dirait qu'il n'y a plus aucune pulsation cardiaque. À moins d'un miracle, c'est terminé pour les Flyers de Philadelphie.
Non, plus.
Honnêtement, ils ne méritent pas de participer aux séries. C'est aussi
exactement.
Simple.
Je pense que ce serait une bonne nouvelle pour les amateurs de hockey que les Flyers participent pas aux séries, là, parce qu'on s'entend qu'avoir une équipe comme les Flyers qui entre par la porte d'en arrière, c'est pour le spectacle, ce serait peut-être pas le meilleur, mais ça me fait penser au propos de Martin Saint-Louis. Ça fait plusieurs fois dans les dernières semaines qu'on lui demande à quelle valeur tu accordes à la fin de saison de ton équipe. T'sais. À quel point tu peux bâtir sur ce que tu fais au mois de mars puis d'avril, puis bâtir là-dessus rendu en octobre l'année prochaine. Puis sa réponse est tout le temps la même, mais c'est vraiment intéressant, c'est de dire qu'il n'y a rien qu'on fait en ce moment qui ne va pas nous servir dans l'avenir. Tu sais, tu mets tes piliers, tu bâtis tes piliers, là, tu regardes les Flyers, tu te dis, bon, en début de saison, les piliers étaient là, on avait l'air de bâtir quelque chose de beau, puis une belle maison, pour reprendre l'expression de Martin Saint-Louis, mais... Là, on dirait qu'on est tout en train de débattre. Puis comme tu dis, Nick, oui, ça va prendre un été où tout le monde va faire le vide.
Tourner la page, oui.
Exact, mais c'est des dommages qui vont probablement être là, rendus à l'automne, peut-être à moins de grands changements dans la formation. Mais ce qu'on fait en ce moment, ça va avoir probablement un prix là, dans les prochains mois, ça c'est certain.
Surtout d'avoir retranché Sean Couturier. Tu retranches ton capitaine pour deux matchs. Ça aussi, ça laisse des traces. Ça
met c'est pas le seul vétéran qui a été laissé de côté.
Non, exactement. Surtout par Tortorella. Je veux dire, c'était sous le signe de sa carrière d'entraîneur, c'est-à-dire des demi... Je vais pas dire demi-mesure parce que c'est pas... Mais des joueurs qui performent pas, que ça fonctionne pas, peu importe le nom qui est dans le dos, de les laisser de côté, c'est ce qu'on a fait dans le cas de Couturier, mais ça a pas fonctionné. À vrai dire, depuis ce temps-là, l'équipe s'est vraiment écrasée. Donc... L'été risque d'être assez long à Philadelphie. Les gars, je vous emmène sur la suite de la semaine pour les Canadiens. Gros match qui s'en vient ce jeudi contre les Islanders de New York qui, si les Flyers sont en chute libre, les Islanders, eux, c'est assez intéressant présentement. On vient de gagner nos 5 derniers matchs. On est de retour en position pour participer aux séries éliminatoires. Je le dis à chaque année, arrêtez de sous-estimer les Islanders. C'était le cas quand Barry Trotz était derrière le banc. Peut-être un peu moins sous Lane Lambert. Là, Patrick Roy est là. Ça donne des résultats dernièrement. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu, mais je veux dire, au niveau de ce que Roy parvient à faire, ça prend tout le temps un peu un entraîneur. Il y a eu deux phases. On a eu une phase très forte lorsque Patrick Roy est arrivé. Ensuite, on a eu un creux de vague. Et là, on est en remontée. Quand un entraîneur arrive derrière un banc, ça prend aussi ces moments-là où tu dois... Tu sais, il y a une lune de miel au début. Par la suite, il y a un moment plus difficile où tu dois replacer, ajuster tes réglages, si on veut, là, ajuster ce que tu es en train de faire. Puis J'ai hâte de voir, surtout que là, on se dirige probablement vers un autre duel Islanders-Hurricane en première ronde. Les Hurricanes sont excellents, mais il faut pas laisser les Islanders de côté là, si ça devait être le cas.
Non, mais les Islanders font exactement ce que les Flyers auraient rêvé d'obtenir, c'est-à-dire accumuler des victoires au meilleur moment de la saison. Roy aussi semble miser sur Semyon Varlamov. Lui donne du bon hockey. Il y a Barzal qui joue bien. Tu as quand même Noah Dobson à la ligne bleue qui pourrait être un candidat pour le trophée Norris. Donc, les Islanders ont du talent, mais cette course aux séries, ça ressemblait tellement à la moins pire des équipes qui va réussir à rentrer. Et depuis 10 jours, bien, les Islanders contrôlent leur destinée en gagnant match après match. La prochaine contre les Canadiens, c'est une rencontre déterminante pour les Islanders, un petit peu moins pour le CH, mais c'est une équipe qui va vouloir poursuivre et essayer de sécuriser la troisième place de la division métropolitaine.
Yeah. Du côté des Islanders, j'étais là pour le premier match de Patrick Roy, puis après ça, quelques jours plus tard, il était de passage à Montréal, puis il mettait vraiment l'accent sur vraiment la structure défensive. Là. On a voulu limiter les revirements qu'on faisait en zone défensive, les oublis, là, honnêtement, dans les premiers matchs, c'était pas toujours évident. Tu voyais qu'il y avait encore des traces de ce qui se faisait avant. On oubliait des joueurs. La couverture était pas très, très hermétique. Mais comme tu dis, Nick, je pense qu'au début, on montre le système, la manière qu'on veut jouer. Là, les joueurs l'appliquent. Puis après ça,
on est sur l'adrénaline un peu. Là,
exact.
Puis, ouais.
Après ça, il y a peut-être un petit relâchement. On retombe dans nos vieilles pantoufles, dans nos vieilles habitudes. Puis là, c'est là que Patrick Roy peut-être est capable d'aller serrer la vis puis dire « Hey, on avait bien fait ça là, dans les premiers matchs. Revenons à ça puis continuons de bâtir sur cette structure défensive-là qui pour moi, je veux dire, les Islanders, ça a toujours... Ben, dans les dernières années, ça a été reconnu comme une équipe qui était très, très efficace défensivement, structurée. Je pense que c'est la clé pour cette équipe-là. Tu regardes à l'attaque, c'est pas une powerhouse offensive, là, mais c'est une équipe qui a quand même des beaux talents, mais qui va gagner selon l'efficacité de sa structure.
Puis t'as raison dans ce que tu dis, puis c'est aussi que c'est le moule de cette équipe-là. Presque seulement des vétérans, des joueurs qui ont de l'expérience. Donc, c'est comme ça qu'on a eu nos succès. Je regardais depuis que, dans nos 9 derniers matchs, là, depuis le 23 mars, depuis qu'on a mis un terme à notre séquence, on a eu une séquence de 6 défaites, là, si je ne me trompe pas. Ce qui a suivi ça, ben, on est 6e dans la ligue au niveau de la moyenne de buts accordés par match des Islanders. Mais là, la grosse surprise, c'est que, puis on le sait, c'est pas facile d'être un gardien de but sous les ordres de Patrick Roy. Et là, c'est Sorokin qui est en train de l'apprendre. Parce que Sorokin, lorsque Roy est arrivé, c'était l'homme de confiance, lui donnait presque tous les départs. Et là, justement, depuis que cette séquence de victoire-là est amorcée, cette séquence de succès-là, quand même, c'est Varlamov qui a amorcé 6 des 9 matchs. Fiche de 5-1 dans son cas. Sorokin fait pas mal, 2-1 à 920, mais seulement 3 matchs. Ce que je me demande, c'est... Oui, Varlamov connaît du succès présentement, mais sur papier, Sorokin est un gardien de loin supérieur. Il l'a prouvé dans les dernières années. Est-ce que Patrick Roy est juste en train de donner un peu de repos à son numéro 1 avant de le relancer dans les 2 derniers matchs de la saison, par exemple, pour entrer en série par la bonne porte? Ou est-ce que Varlamov là, vient vraiment de causer la surprise puis s'emparer du poste de numéro 1? C'est un gars qui l'a déjà été, Varlamov. C'est pas comme s'il sortait de nulle part. C'est juste que dans les dernières années, il avait un rôle vraiment secondaire. Là.
Je pense honnêtement que Patrick Roy, en ce moment, se pose aucune question à savoir est-ce que je le repose, qui est mon numéro 1. Il va simplement avec celui qui est en feu. Celui qui connaît la meilleure séquence, c'est Semyon Varlamov. Les Islanders ne sont pas dans une position où ils peuvent se permettre de dire « Bon, mais on va en reposer un, on va moins brûler un de nos gardiens. Ils savent que l'investissement à long terme reste Sorokin, mais les deux gardiens ont quand même des contrats importants au niveau de la masse salariale. Les Islanders aiment depuis plusieurs saisons miser sur ce duo, deux Russes en plus. Mais Varlamov, c'est 918 son taux d'efficacité, 2,69 sa moyenne, un petit peu supérieur à Sorokin qui est à 3,02. Donc, pour l'instant, on compte sur le cheval Varlamov, puis on verra si jamais il casse ou il ralentit, mais ils vont rapidement se tourner vers Sorokin.
chevaucher la main chaude, comme dit l'expression. Là, on regarde le portrait des séries éliminatoires. On l'a dit, les Islanders qui sont en troisième place de la section métropolitaine. Pour la course du quatrième art, c'est réglé. Le Lightning de Tampa Bay est assuré de faire les séries éliminatoires et devrait terminer, va terminer à cette place-là, là, en moins de tout un revirement de situation. Là, mais les Maple Leafs semblent bien en selle. D'ailleurs, la course est super intéressante. Hier, les Capitals ont emporté. On a 85 points. Les Penguins de Pittsburgh qui ont vendu chèrement leur peau lundi contre les Maple Leafs de Toronto, mais on s'est incliné en prolongation. On se retrouve à 84 points. Les Red Wings de Détroit, c'est la même chose, 84 points, mais on est derrière les Penguins et les Capitals parce qu'on n'a pas le bris d'égalité. Là. Au niveau du bris d'égalité, on est dernier. Mais cette course-là, ça va aller jusqu'à la fin, là, visiblement. Là. Il y a des équipes, on en a parlé, que c'était une course de tortue. Reste que ça clique en ce moment pour les Penguins. Alex Ovechkin, ça va bien pour lui à Washington. Puis les Red Wings ont quand même plusieurs éléments qui peuvent leur permettre de rester à la course. Dans la course, vous voyez quel dénouement là, pour cette course-là. Là.
On aimerait ça pouvoir prédire l'avenir là, parce que on est en train d'essayer de regarder les scénarios de série, voir quelle série on va couvrir. Puis je pense que moi et JF, on passe 10 minutes par jour à faire des scénarios qui changent le lendemain matin. mais non.
C'est une question de 1000 aéroplans, là, c'est ça. Là,
non.
C'est...
non. mais ce qui est intéressant, je regardais le portrait des séries, on parlait de course de tortue. Les Islanders ont un différentiel de moins 21, sont en série. Les Capitals sont à moins 40 présentement, sont dans le portrait des séries. Tu regardes dans l'Ouest, c'est pas le cas. Là. On n'a pas d'équipe comme ça qui rentre par la porte, qui entre par la porte d'en arrière. Dans l'Est, honnêtement, quel dénouement. C'est une excellente question. Pour les histoires, je pense que de voir Sidney Crosby en série après quelques mois après quelques semaines après la date limite des transactions où on pensait que les Penguins ont vendu, c'est terminé pour cette saison, puis qu'on se mettait à se poser des questions pour le futur, ce serait une très bonne histoire de voir les Penguins entrer en série. Les Capitals avec Ovechkin, qui sait, ça peut être aussi spectaculaire. Mais honnêtement, on va mettre les noms dans un chapeau puis on va piger, puis ça risque de ressembler à ça.
Mais moi, j'ai hâte de voir. C'est vraiment une course, autant on le dit souvent, là, c'est une course de tortue, mais les Penguins viennent mêler les cartes. Il y a peut-être deux semaines, on n'aurait pas cru voir les Penguins de Pittsburgh cogner à la porte pour une participation aux séries, mais je regardais l'horaire d'ici la fin de l'année. Les Caps vont jouer contre les Sabres, contre le Lightning, contre les Bruins, contre les Flyers. Les Penguins, eux, vont jouer contre les Red Wings, les Bruins, les Predators, les Islanders. Donc, peuvent pratiquement contrôler leur destinée avec des confrontations directes contre Détroit, contre les Islanders. Puis une équipe qui va peut-être venir chambouler les plans. Les Canadiens terminent la saison avec deux matchs, un dos à dos, pour reprendre l'expression de Claude Julien, contre les Red Wings de Détroit. Donc, si jamais le CH vole quelques points aux Wings, ça peut venir aider la cause de Sidney Crosby et des Penguins. Je crois que le scénario peut-être idéal, à mon sens, c'est de voir les Penguins de Pittsburgh qui rentrent en série. Sidney Crosby qui dirait à son DG, « T'as beau échanger Jake Gunzel, on est encore capable de gagner, on est encore capable de pousser. » Puis ils le font avec Alex Nedeljkovic dans le filet, plus que Tristan Jarry. Donc, c'est curieux de voir comment ça va se terminer du côté de l'Est.
Il y a aussi, il y a une transaction pour Michael Bunting aussi qui a été réalisée. Puis Michael Bunting est un des joueurs très importants là, dans cette remontée au classement des Penguins-là. Donc, il y a le côté, on a échangé Jake Gunzel, mais d'un autre côté, on est allé chercher un joueur qui nous aide à pousser pour les séries.
Oui, il tire Evgeny Malkin présentement. Là. C'est lui qui a relancé Malkin au niveau de cette saison-là. Donc, tu sais, Carl Dubas, même si les succès en séries éliminatoires n'ont jamais été au rendez-vous à Toronto, a toujours été capable de, au niveau transaction, au niveau joueur qu'il va chercher, tu sais, c'est pas planté si souvent que ça, là, Dubas, puis cette transaction-là. Si en plus, il y a quelques-uns des 12 000 espoirs qu'on a été chercher, il y en a un ou deux qui se développent, ça sera peut-être pas un coup aussi décevant qu'on croyait à l'origine, surtout que visiblement, la transaction a relancé les Penguins. Là. Ça a été un peu comme le coup de fouet. Là.
Ouais, puis je me demande si c'était vraiment c'était-tu vraiment l'objectif de Kyle Dubas de, tu sais, en allant chercher à Bunting, est-ce qu'il se disait on va encore avoir une chance ou il se disait on échange Jake Gunzel puis on descend au classement, on va chercher un bon choix de repêchage parce que la banque d'espoir des Pingouins, là, c'est parmi les pires de la ligue. Là, donc, je me demande si on cherchait pas plus à obtenir un bon rang de loterie plutôt que de pousser pour les séries. Mais ça, seulement Kyle Dubas sait quelle était la stratégie là, au moment de la date limite des transactions.
Ben moi, je pense qu'on voulait probablement plus construire pour le futur, Guillaume. Mais Kyle Dubas savait aussi ce qu'il faisait en obtenant Michael Bunting, l'a connu du côté des Maple Leafs, mais l'a connu aussi avec les Greyhounds de Sault-Sainte-Marie. Donc, c'est une relation qui date de longue date. Et Bunting a un contrat qui est encore 4,5 millions pour les deux prochaines saisons. Donc, on disait adieu à Jake Gunzel. On croyait que c'était impossible de s'entendre avec lui, mais on obtenait un ailier qui était pour rester à Pittsburgh pour deux saisons de plus. Donc, il y avait quand même un risque calculé dans cette transaction pour les Penguins.
Et du côté de l'Ouest, au niveau de la course aux séries éliminatoires, c'est presque réglé aussi. Les Predators qui sont assurés d'une place. Il reste les Golden Knights là, à aller chercher leur qualification officielle. Ça devrait se faire très prochainement. Mais les Golden Knights ont Thomas Chortal qui a joué un premier match hier, mais on a encore plusieurs, lundi. Mais on a encore plusieurs joueurs qui sont sur la liste des blessés. Le seul, vraiment, présentement, là, débat, là, c'est si les Golden Knights peuvent aller chercher les Kings de Los Angeles. Ça ferait quand même une différence importante parce qu'au lieu d'affronter les Stars de Dallas en première ronde, tu affronterais les Oilers d'Edmonton. C'est peut-être un adversaire légèrement plus intéressant parce que la défensive peut casser. Mais quand même, là, je suis du côté des Golden Knights. On verra bien dans quel état de santé on va entrer en séries éliminatoires, mais si on regarde leur fiche dernièrement, somme toute, on vient de perdre nos deux derniers matchs. C'est une équipe qui n'entrera certainement pas là, en santé et du bon pied dans les séries éliminatoires. Messieurs, je veux vous ramener du côté des Canadiens. On ne veut pas totalement terminer la discussion sur le CH. GF, tu t'es entretenu avec Lane Hudson à l'approche du Frozen Four, là, le fameux tournoi final de la NCAA qui commence jeudi. Bon, regardons un peu. Hudson, on le sait, choix de deuxième ronde des Canadiens, depuis qu'il a été sélectionné, a vraiment rempli les attentes offensivement. Saison un peu différente cette année. Au niveau de sa production, c'est des chiffres qui, somme toute, sont similaires à celles de sa première saison avec les Terriers de l'Université de Boston. Mais Hudson avait d'autres objectifs cette année, puis c'est ce qui le met en place. C'était vraiment son jeu défensif.
Oui, exact. Petite discussion avec Lane Hudson lundi, donc quelques heures avant...
Quelques
heures avant le début de l'éclipse, j'ai reçu l'appel de Lane.
Tu vois que je reviens de vacances, hein?
Oui.
Parce que j'ai de la peur avec mes dates.
C'est correct avec les journées. On est mercredi aujourd'hui.
Mercredi.
Mais bon, Lane Hudson, tu parlais concentration sur son jeu défensif. Ça peut paraître paradoxal parce qu'on parle quand même d'un joueur qui a obtenu 49 points cette année dans la NCAA en 37 rencontres. Encore 15 buts. Exactement le même nombre de buts qu'à sa saison recrue. Mais Hudson disait que le mandat qu'il avait reçu, c'était de défendre encore mieux, d'être plus responsable dans son territoire. Puis c'est un défenseur qui le fait non pas avec ses épaules ou sa force physique, mais avec son anticipation, son intelligence. Jay Pendolfo, je me souviens d'une conversation avec lui, qui est l'entraîneur du côté de Boston University, disait qu'il se fait rarement prendre. Oui, on vante ses qualités offensives et pour cause, mais Hudson travaille justement sur son jeu des deux côtés de la patinoire. Discussion aussi par rapport au Frozen Four. Pour les Terriers de l'Université de Boston, c'est une deuxième présence en deux ans. L'an dernier, ils ont perdu en demi-finale contre les Gophers du Minnesota. Cette année, ils jouent contre les Pioneers de Denver pour une place en grande finale. De l'autre côté du Frozen Four, c'est Boston College. C'est la grosse machine. Boston College est numéro un au pays avec Cutter Gauthier et le trio des trois jeunes qui se suivent depuis longtemps. Will Smith, Gabriel, Gabe, Perrault et Ryan Leonard. Devant le filet, Jacob Fowler qui appartient aux Canadiens. Eux, ils vont jouer contre les Wolverines du Michigan. Donc, une possible finale entre deux équipes de Boston. C'est possible qu'on voit Hudson contre Boston College. Mais l'enjeu avec Lane Hudson, c'est de savoir quand est-ce que sa saison va prendre fin. Si sa saison se termine jeudi, selon moi, les négociations contractuelles avec les Canadiens vont se dérouler à vitesse grand V. Hudson s'en cache pas. il ne ferme pas la porte à venir la saison, à venir finir la saison avec le CH. Il serait fou aussi, Nicolas, Guillaume, de ne pas le faire. Là. Pour lui, ça lui demande de jouer peut-être deux matchs contre les Red Wings en fin de saison, puis il brûle une année de contrat professionnel. Un petit peu comme Cole Caulfield avait fait. Donc, je ne serais vraiment pas surpris. Ça va nous donner une autre histoire en fin d'année de voir Lane Hudson à la ligne bleue du CH pour un ou deux matchs.
Mais c'est ça, c'est contre Denver quand même. C'est des retrouvailles avec l'entraîneur David Carl, qui était son entraîneur au Mondial Junior, qui avait eu de très bons mots là, tout au long du tournoi. Je me souviens, au mois de décembre, avait parlé de Lane Hudson comme un défenseur très, très efficace défensivement. Là. Il disait que c'était ce qui l'avait marqué quand il a vu Lane Hudson jouer. Est-ce que les... Je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord vraiment avec ça. Est-ce que les entraîneurs en rajoutent une couche pour lui donner des petites tapes dans le dos? Ça, on le verra au prochain niveau.
Gonfler les pneus, comme dit l'expression.
Ouais, mais tu sais, c'est sûr que quand tu es l'entraîneur, ça paraît mal si tu commences à dire que le jeune a de la misère défensivement. Mais à un moment donné, il y a plusieurs témoignages qui disent qu'il a progressé de ce côté-là. Donc, c'est quand même intéressant, mais c'est un défi de taille quand même pour Boston University. L'Université de Denver, c'est une équipe quand même expérimentée. Donc, si on passe en finale, ce sera déjà un accomplissement.
Mais tu étais là, Guillaume, au championnat du mondial junior. Je ne sais pas si tu as vu les États-Unis, mais contre la crème mondiale, justement, Hudson, défensivement, est-ce qu'il se débrouillait?
Oui. Absolument. Tu sais, je suis pas recruteur. Là. Tu sais, je sais qu'il y en a qui doutent un peu de son jeu défensif. Mais de ce que j'ai vu, c'était quand même un joueur aussi qui était expérimenté à ce niveau-là. Avec le bagage qu'il a accumulé au cours des années, on sentait qu'il était à sa place, qu'il était rendu à être un leader pour cette formation-là. Donc, des fois, ça peut jouer aussi sur cette scène internationale-là. Mais de ce que j'ai vu, Dane Hudson était très efficace. Puis comme disait GF, c'est pas un défenseur qui va se démarquer avec les grosses mises en échec, qui va être vraiment physique, mais son coup de patin lui permet vraiment de sortir de situations difficiles puis de bien défendre dans son territoire. Donc, pour l'instant, ça va. Voyons, on va peut-être avoir un petit avant-goût en fin de saison pour évaluer tout ça.
Pour ceux qui seraient curieux de regarder justement Boston University, oui, il y a Lane Hudson, mais il y a Macklin Celebrini probablement le premier choix au prochain repêchage. Il y a Tom Villander à la ligne bleue qui est un choix de premier tour également. Puis il y a Luke Tuck, espoir, choix de deuxième tour du tricolore. Toujours pas de contrat dans le cas de Luke Tuck. Ça doit se faire au cours des prochains mois si on souhaite garder ses services. Cette saison, c'est 29 points en 38 matchs. Sa meilleure saison au niveau offensif, mais pour un joueur de 22 ans, c'est bon, mais ce n'est pas phénoménal non plus. Donc, j'ai hâte de voir la direction que le Canadien prendra avec Tuck.
Tu en as parlé de Celebrini un peu. Sa saison s'est passée comment? Oui, on parle de lui comme le futur premier choix, mais qu'est-ce qu'il était en mesure d'amener à sa première saison dans l'NCAA à seulement 18 ans? Là, il y en a qui font le saut à 19 ans là, après leur année de repêchage. C'est pas son cas à lui. Celebrini, son jeu, ça ressemble à quoi, Jeff?
Ben écoute, c'est un candidat pour le trophée Obi Baker qui est décerné au meilleur joueur au niveau de la NCAA. C'est une saison phénoménal. 64 points en 37 matchs, 32 buts, 32 passes à 17 ans seulement. Il va fêter ses 18 ans le 13 juin. Puis je vais reprendre les mots de Lane Hudson. Quand je lui parlais, Hudson me disait « Tout le monde parle des 64 points, mais moi, ce qui m'a frappé dans le cas de Celebrini, c'est son jeu défensif. » Il dit « Il y a tellement un désir d'être bien positionné, de récupérer des rondelles, porte une grande, grande attention à son jeu défensif. » Il y a plusieurs recruteurs qui le comparent à Jonathan Toews. C'est peut-être un joueur qui est dans le moule d'un Toews, qui est très responsable, qui est intelligent. C'est un beau candidat pour un premier choix. Les équipes de la loterie, en ce moment, rêvent à Celebrini.
Ouais, moi, j'ai l'impression que c'est une petite machine de hockey. Je l'ai vu aussi au Mondial Junior. Là. Tu disais toujours bien placé. Il est toujours impliqué dans le jeu. Dès qu'il est sur la patinoire, tu le vois. Là. Il y a des joueurs, des fois, que... Tu te dis, bon, OK, il est en uniforme ce soir, on ne l'a pas trop vu, mais Celebrini, au sein de la formation canadienne au Mondial Junior, a été le meilleur joueur de cette équipe-là, il était le plus jeune. Autant du point de vue offensif que défensif, on lui en donnait, puis il répondait aux attentes. Fait, Puis pour lui avoir, tu sais, en entrevue, parlé quelques fois, c'est un jeune homme qui fait penser un peu à Connor Bedard dans le sens où il est très, très...
méthodique.
Focus ouais. sur la tâche. Il est très à son affaire, en tout cas, du moins de ce qu'il laisse entrevoir. Ça a l'air d'un premier de classe. Là. Fait que de l'impression que j'ai eue de lui, c'était quand même très positif. Puis sur la patinoire, ben, c'est un joueur qui est absolument dominant.
Donc, ce que vous me dites, c'est que si les Blackhawks gagnent la loterie, on se retrouverait avec un joueur qui se compare avec Jonathan Toews et un Connor Bedard qui se compare avec Patrick Kane, c'est ça?
Exactement.
Ressembler, mais historiquement, les Sharks n'ont jamais eu le premier choix au total. Peut-être que Dame Chance pourrait être du côté de San Jose. Tu regardes cette équipe-là, ça ferait pas de mal aux Sharks non. de San Jose non. d'ajouter un Celebrini.
Will Smith aussi. Celebrini.
Will Smith, Celebrini, on commencerait à avoir un noyau qui pourrait faire du sens.
William Eklund joue très bien mm-hmm. aussi dernièrement. Là, vraiment pris, on parlait de Slavkovski qui a pris son envol. Eklund aussi du côté des Sharks. En terminant sur le CH, bon, ça a été une journée sous le signe des Jackeye hier. Fin de saison pour Arber Jackeye. Bon, opéré à l'épaule. C'est la deuxième fois qu'il est opéré à l'épaule, pas la même épaule. Mais est-ce que c'est un peu inquiétant de voir que... On dit souvent au baseball l'opération Tommy John, là, tu le fais, puis c'est fait, puis dans son cas, bon, on voit ça comment, le fait qu'il en est à sa deuxième opération à l'épaule?
Ben, je pense que techniquement, on parle pas d'une bonne nouvelle, mais je crois pas non plus que c'est une catastrophe. Arber Jackeye a 23 ans. Martin Saint-Louis, quand on lui a posé la question, on parlait des progrès de la médecine. On n'est plus en 1986 non plus quand vient le temps d'y aller d'une opération. Il s'est rendu à Vail, au Colorado, le même chirurgien qui l'avait opéré l'an dernier, le même chirurgien qui a rencontré Cole Caulfield. C'est évident qu'Arber Jackeye a besoin de ses deux épaules, de la façon qu'il joue au hockey, autant pour donner des mises en échec que quand il jette les gants. Mais J'ai espoir. Je pense pas que c'est le niveau d'un Tommy John. Tommy John, c'est le coude, c'est la répétition, c'est sans lancer par départ. 90 maintenant, parce qu'on protège les lanceurs.
Ouais, c'est ça.
Même 80, mais...
Non, mais c'était plus dans le sens de... Tu le fais, puis c'est fait. T'sais, Tommy John, c'est-à-dire... ouais. Tu vas perdre une année de ta carrière, mais ça va t'en donner deux, trois de plus au final. Là.
C'est une blessure
qui est commune.
J'ai le sentiment que c'est une blessure qui traînait depuis un bon moment. Si on regarde les derniers matchs de Jackeye, Arber Jackeye n'est pas uniquement un bagarreur, mais c'était rare dernièrement qu'il y allait, pouvait jeter les gants. Donc, je crois qu'il se gardait une petite gêne. Il y avait probablement un inconfort. Avec 4-5 matchs au calendrier, les Canadiens n'avaient absolument rien à perdre. Puis l'objectif, c'est de le revoir en santé pour le prochain camp d'entraînement. On se donne la fenêtre où Jackeye, au mois de septembre, devrait être techniquement correct. Mais en parlant avec d'autres joueurs, en parlant avec Jordan Harris notamment, ce qui est moins le fun dans son cas, c'est que c'est un été d'entraînement qui va être perturbé.
Ouais, c'est ça.
Il ne pourra pas s'entraîner comme il souhaite le faire. Donc, c'est possible qu'au mois de septembre, mois d'octobre, il va avoir un petit retard sur les coéquipiers.
Mais cette chirurgie-là, tu sais, j'en parlais avec Jacob Pelletier, qui s'est aussi fait opérer à l'épaule par ce médecin-là. Puis il me disait...
Carnet assez rempli, hein, Dr. Millett?
Ouais, mais c'est le spécialiste de l'épaule.
C'est le spécialiste,
puis Jacob Pelletier m'a dit quelque chose qui m'a vraiment surpris quand je lui ai parlé de ça. Il dit, je me suis opéré le matin, puis le soir, je commençais la rehab. Fait que c'est aucun délai en termes de... Je sais pas, je suis pas médecin, j'ai aucune idée comment ça fonctionne, mais de voir une opération à l'épaule où tu te dis, bon, OK, il va être il va avoir une attelle pendant quelques temps, puis il pourra pas bouger, il pourra pas faire trop de... Tu sais, je dis pas qu'il est allé faire du bench press en sortant de la table d'opération, là, mais...
Ça sent un peu ses élastiques,
vraiment...
un peu, hein, comme,
ouais, exact,
comme entraînement.
Il dit, c'est vraiment rapide comme,
ah ouais, okay.
comme processus. Fait que oui, peut-être qu'il pourra pas s'entraîner au meilleur de ses capacités comme il le faisait habituellement, mais je pense que c'est une opération qui est quand même assez efficace en termes de rapidité et tout ça, de récupération.
Bon, pendant qu'on avait une mauvaise nouvelle sur Harbert, son frère Florian, lui, qui en a eu une très bonne, a paraffé un contrat de 3 ans, contrat d'entrée avec le CH, va terminer la saison avec le Rocket de Laval. Guillaume, Florian, tu lui as parlé cette saison. c'est on, bon, lors de son année de repêchage, on l'avait qualifié de licorne. On avait vu les dépisteurs là, en coulisses lors des réunions d'avant-repêchage, les dépisteurs des Canadiens le qualifié de licorne parce qu'on voyait un potentiel dans son cas. On voyait qu'il avait une courbe de développement, somme toute, qui pouvait ressembler à celle de Harper, c'est-à-dire très tardive, mais très intéressante. Et c'est ce qu'on a vu cette année, là, lui, avec les Bulldogs de Brentford là, dans la Ligue de l'Ontario.
Oui, surtout en deuxième moitié, s'est mis à produire, a connu une certaine explosion offensive. Il a eu quelques blessés, il a obtenu plus d'opportunités, puis il en a profité. C'est intéressant comme progression. Maintenant, bon, 65 points en 63 matchs pour un joueur de 19 ans dans la Ligue de hockey junior, ben c'est acceptable sans être remarquable. Est-ce que ça va se traduire?
J'allais dire, est-ce que c'est le cas typique du joueur qui sera jamais le meilleur de son équipe?
Oui, probablement. Tu sais, je pense qu'un Florian Jacquet, ça va être un joueur de soutien, un joueur d'énergie probablement au prochain niveau. Tu sais, on va peut-être le voir. En fait, on va le voir avec le Rocket de Laval d'ici la fin de la saison. Là, mais j'ai l'impression que c'est ça. On va le placer dans un rôle qui va lui convenir. Ça va être un joueur qui va pouvoir produire de façon, disons, acceptable au niveau professionnel. Mais son rôle, ça va être d'amener de l'énergie, d'arriver en troisième vague sur un troisième, un quatrième trio, puis de donner le ton pour son équipe et tout ça. Je pense que ça va être plus ce genre de joueur-là. Mais c'est certain qu'il y a aussi... Tu sais, oui, il y a la grit, là, le papier sablé, mais il y a aussi des habiletés offensives quand même assez intéressantes.
Oui, puis c'est un joueur qui a un ADN. C'est l'ADN d'un Jacky. Quand les Canadiens l'ont repêché, c'est ce qu'il disait, bon, la fameuse licorne, comme Guillaume disait tantôt. Mais si tu regardes aussi au niveau des espoirs de l'équipe, il n'y a pas des tonnes d'attaquants qui peuvent mixer la robustesse, quelques buts, et 6 et 4, quand il sera pro, probablement plus de 200 livres. Philippe Méchard, c'est un petit joueur. Sean Farrell, c'est un petit joueur. Riley Kidney, tout petit. Xavier Simoneau, aussi grand que Guillaume Lefrançois. Owen Beck, pas très grand non plus. Vincent Roer, même chose. Oliver Kapanen, même chose. Cédric Guindon, donc. De temps en temps, il faut que tu aides un joueur différent aussi. Puis c'est ce que le CH retrouve avec Florian.
Est-ce qu'il sait compter aussi bien que Guillaume Lefrançois?
Non, ça, il y en a juste un.
On salue notre collègue du côté de la presse. Guillaume, je t'amène sur un autre sujet. Le Lightning de Tampa Bay était à Montréal jeudi dernier. Lightning qui termine la saison en force, ça va bien pour eux. En plus, on a peut-être une bonne nouvelle avec Mikhail Sergachev qui a repris l'entraînement cette semaine. Bon, on le sait, a subi une fracture de la jambe, tibia et péroné, si je ne me trompe pas. Là. Donc, mais là, il est déjà de retour sur le patin. Donc, peut-être pas immédiatement en début de séries éliminatoires, mais éventuellement pour effectuer un retour. Tu as parlé avec Anthony Duclair qui s'est joint à cette organisation-là à la date limite des transactions. Duclair, c'est bon, traîne son baluchon, on le sait. Là. C'est sa 8e équipe dans la LNH. Comment il a vécu son arrivée? Surtout que ça s'est bien passé, somme toute, là, son arrivée offensivement. Il s'est rapidement intégré au moule du Lightning. Comment ça s'est passé pour lui? Puis comment il vit ça alors qu'il arrive de San Jose? Une équipe ou des victoires, là, il n'y en a pas eu. Le chemin de croix était long là, à San Jose cette année.
Oui, c'est ça. C'est vraiment passer des très bas fonds du classement.
Entre l'ombre et la lumière, comme chantait Marie-Carmen.
Exactement. C'était le titre de mon article inspiré par Chaumont, qui a toujours des bonnes idées de titre.
Donc, il est surtout un fan de Marie-Carmen, JF. C'est surtout ça. Là.
Absolument. C'est ma chanteuse au karaoké. Vas-y, continue Guillaume, on s'écarte. Ouais.
Mais Anthony Duclair, non, c'est ça, il a fait son arrivée, il dit il y a eu une discussion avec John Cooper dès les premiers jours, puis Cooper lui a dit on manque de profondeur sur le top 6, ça va être ton rôle, tu vas être dans un rôle offensif. Il dit les premiers matchs, il était sur le deuxième trio. Quand il est arrivé à Montréal, ça faisait quelques matchs là, qu'il jouait en compagnie de Kucherov notamment. Brendan Hagel, je crois aussi, qui complétait ce trio-là. Donc, il a été placé dans une situation très avantageuse. Il en profite aussi parce qu'il produit depuis son arrivée. Mais pour ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'Anthony Duclair n'est pas le premier joueur à arriver avec le Lightning à la date limite des transactions et avoir un impact immédiat, tu sais, à rentrer dans le moule. Puis
Mais tu rentres dans une culture aussi, là.
Exact. C'est la clé. C'est ce qu'on a parlé avec le Lightning. C'est facile, entre guillemets. Martin Saint-Louis disait c'est pas facile, mais c'est pas facile, mais c'est facile. C'est plus facile qu'ailleurs, probablement, parce que tu rentres dans un moule, il y a des vétérans établis, il y a une ligne vraiment très claire où voilà ce qu'on fait, voilà comment on joue. Puis tout le monde est dans le même bateau, tout le monde pousse dans la même direction. Donc, probablement pour les acquisitions, c'est un Brendan Hagel, il y a quelques années, avait fait ça aussi. Je pense à Blake Coleman, qui était plus un joueur de profondeur, qui est arrivé là, qui a eu un impact. Donc, c'est un bel environnement pour un joueur, justement, d'entrer dans un moule puis d'être placé avec des joueurs extrêmement talentueux puis d'en profiter comme ça. Pour Anthony Duclair, qui en est à sa dernière année de contrat, c'est très positif. Je veux dire, s'il fait une bonne impression d'ici la fin de la saison, puis en série d'éliminatoires, ben, il peut aller se décrocher un petit contrat en Floride, là, lui qui a joué pour les Panthers aussi. Donc, je pense qu'il irait pas ça. Là. Quand on y a parlé, c'était la journée de la tempête. Là, puis je pense qu'il avait hâte de retourner en Floride, au chaud avec ses sandales aux pieds.
Mais c'est le type de joueur aussi. Anthony Duclair, c'est pas le joueur qui va transporter une équipe sur ses épaules, l'attaque. Mais c'est un joueur de complément. S'ils ont des duos forts au sein des trios, peut venir être le troisième joueur. Il y a le coup de patin pour suivre. Il y a l'intelligence aussi pour suivre. Puis, du côté de la Floride, il était capable de jouer avec un Barkov. Il a quand même eu 11 points en 20 matchs pour le long parcours des Panthers. Il a connu une saison de 31 buts aussi avec les Panthers. Et depuis son arrivée avec le Lightning, c'est 12 points en 14 matchs. Donc, un bon coup de la part de Julien Brisebois. Puis on n'a pas payé la lune non plus pour obtenir Anthony Duclair. Donc, c'est une transaction intelligente du côté du Lightning.
La saison tire à sa fin, messieurs. Je veux vous amener... il y a deux semaines, on a eu un petit débat sur le gagnant, celui qu'on voit comme gagnant pour le trophée Hart. C'est encore très serré là, pour le joueur le plus utile. Donc, le débat resterait le même si on avait à le faire aujourd'hui. Mais je veux vous amener un peu sur les autres trophées de la Ligue nationale, principalement les quatre levées. Les quatre qui passent au vote, là, qui ne sont pas des automatismes, comme Art Ross, là, Vezina, Calder, Norris et Jack Adams. Je veux qu'on jase un peu de ce qui. De votre choix. Qui vous verrez remporter, voir si on est unanime ou si on ne l'est pas du tout. Trophée Vezina, c'est un bon trophée remis au meilleur gardien de la Ligue nationale de hockey. Quand on regarde les statistiques cette année, le meneur au niveau des victoires, c'est Alexander Georgiev, qui est gardien de l'Avalanche du Colorado. Et qui ne se retrouve, à mon avis, va se retrouver dans à peu près aucun scrutin. Parce que, un, c'est statistique. Bien, tu sais, on dit souvent, les victoires, c'est pas une statistique de gardien. Les victoires, c'est une statistique d'équipe. Il y a plein de statistiques pour parler de ceux des gardiens, mais les victoires, c'est pas le cas. C'est pourquoi, à mon avis, premier, Georgiev ne devrait pas, obtiendra probablement pas le trophée. Mais, derrière. Est-ce que c'est le trophée depuis que Thatcher Demko est sur la liste des blessés, est-ce que LeBuck, Connor LeBuck des Jets de Winnipeg, s'est assuré de ce trophée?
Ben pour moi, Connor LeBuck a une bonne longueur d'avance. Georgiev, bravo pour les 38 victoires, mais taux d'efficacité de 899. Atteint même pas le seuil des 900. Puis là, on regarde pas non plus les statistiques avancées là, pour ses arrêts sur les occasions de marquer de grande qualité. LeBuck, et un des grands responsables, sinon le grand responsable de la belle saison des Jets de Winnipeg. Thatcher Demko va avoir manqué peut-être un petit peu trop de matchs. À mon avis, la lutte avait lieu entre Hellebuck et Demko. Maintenant, Hellebuck a saisi la pole. Je serais très surpris qu'il ne gagne pas le trophée Vezina cette saison.
Pour répondre à ce que tu disais, je regarde les statistiques avancées au niveau des buts sauvés. Là. Des buts sauvés par rapport à ce qui est attendu. Georgiev, si on regarde les gardiens on va mettre 20 matchs, là, disons 20 matchs là, cette année. Là. Georgiev, il est 21e dans la ligue. Je vous laisse deviner, LeBuck est premier, suivi de Demko, suivi d'Anthony Stolarz. Ça, je vais écrire un pool, là. J'ai mon pooler à écrire aujourd'hui, mon top 25 gardiens. Je vais vous en parler un peu de Stolarz parce que si Alex Lyon avait excellé l'année dernière en fin de saison pour transporter les Panthers en séries éliminatoires, Stolarz fait un peu ça, là. Peut-être pas au même niveau là, parce que Bobrovsky est là, mais fait un peu ça. Même décision pour le Vezina, Guillaume?
Oui, pour toutes les mêmes raisons. Mais vraiment, vous me faites réaliser, Georgiev, je faisais la chronique avec Justin Thibault pour les dernières années, pendant les dernières années, puis il me disait toujours c'est très dur pour une équipe de faire les séries avec un gardien qui n'affiche pas un taux d'efficacité d'au moins 900-910. Tu regardes la fiche de Georgiev, 38 victoires avec un taux d'efficacité de 899. Je pense qu'il faudra en parler à Jocelyn, là, mais je pense qu'il serait un peu abasourdi de voir ça. Là. C'est quand même fou de voir à quel point cette équipe-là est capable de gagner malgré le fait que le gardien laisse passer au moins une rondelle à chaque
match.
Ouais, c'est ça, exactement. C'est défi la logique, le bon Alexander Georgiev.
Trophée Calder remis à la recrue par excellence du circuit. On attendait Connor Bedard. On a eu Connor Bedard au rendez-vous, mais avec quelques matchs de moins, on s'est été blessé au niveau de la mâchoire. Donc, tout de même, 59 points en 63 matchs cette année pour Bedard. C'est une très belle récolte. Derrière, il y a certaines voix qui s'élèvent. Techniquement, la deuxième meilleure recrue au niveau des points, c'est Luke Hughes, le défenseur des Devils du New Jersey. Mais les voix s'élèvent beaucoup plus en faveur de Brock Faber, défenseur du côté du Wild du Minnesota. 43 points cette année, mais il est comme un moteur diesel qui fonctionne à longueur de journée. Il est toujours sur la patinoire. Temps de jeu moyen de 25 minutes par match au sein d'une équipe qui s'est battue pour les séries éliminatoires, mais qui va avoir manqué de temps et qui va avoir manqué un peu pas de talent, là, mais de résultats, particulièrement en début de saison. Est-ce que Faber peut venir vraiment menacer Bédard ou Bédard, parce qu'il commençait avec le titre de favori, le titre de premier choix, le titre de nouveau prodige, c'est dans la poche pour lui?
Je ne sais pas si c'est dans la poche, mais Brock Faber, je suis persuadé qu'il va obtenir des votes plus que Luke Hughes. Oui, Luke Hughes a une bonne saison offensive, 45 points, mais moins 23. J'ai fait un détour du côté du Minnesota il y a quelques jours, puis autant Marc-André Fleury que John Hines, tout le monde vantait l'intelligence de Brock Faber. Puis moi, c'est son utilisation. Le Wild du Minnesota, passé la grande majorité de la saison, là, sans Jared Spurgeon, Jonas Brodin a été blessé aussi, et on s'est tourné du côté de Faber. Si tu regardes le temps de jeu pour les matchs de 28 minutes et plus, c'est le nom de Faber qui va revenir partout dans la colonne des recrues. Son utilisation moyenne cette année, c'est 25 minutes. Il a 43 points. C'est un défenseur. C'est quand même une bonne production. Mais je crois que Connor Bedard...
Tu parlais de différentiel zéro au niveau de son différentiel.
Oui, exact.
En comparaison,
il est à zéro. Donc, Luke Hughes, qui est à moins 23. Bedard est à moins 38. Mais Bedard est à moins 38. Il joue avec une équipe de niveau Bantam 3. Est-ce que tu peux vraiment dire que c'est 59 points à 63 matchs? Il y a 18 ans, il a pratiquement maintenu un point par match. Il joue près de 20 minutes en moyenne. Il a 199 tirs. Et il n'est tout simplement pas entouré. Donc, je continue de croire que Connor Bedard va gagner le trophée Calder.
Je ne sais pas où j'avais lu ça plus tôt dans la saison, mais ça disait que ça comparait les équipes au niveau de l'entourage d'une recrue, d'un premier choix, à quel point un joueur se retrouvait avec une équipe faible à sa première saison. Et Bedard était, je pense, dans l'équipe la plus faible depuis probablement Alexandre Daigle,
ouais,
avec les Sénateurs d'Ottawa. Donc, avec les Sénateurs. Donc, tu sais, partait de loin. Les Blackhawks partent de loin, là, puis même Bedard ne pouvait pas tourner la barque. Il ne peut pas tout faire là, non plus. Là.
Guillaume, ton choix?
Oui, Guillaume, vas-y.
J'en rajoutais pas parce que ça va être Connor Bedard, mais mention honorable à Brock Faber parce que c'est quand même assez impressionnant de voir à quel point il accumule les minutes du côté du Minnesota.
Là, Guillaume, je te donne la première réponse parce que nos cerveaux vont trop se connecter. Tu peux répondre en premier.
Non, mais je m'en ai dit, dans le cas de Faber, c'est peut-être la recrue avec la saison la plus surprenante et étonnante. Pas qu'on ne l'attendait pas. On était le chercher du côté, c'est dans la transaction Kevin Fiala qu'on était le chercher, mais jamais on s'attendait à ce qu'il joue autant que ça là, avec à sa première saison avec le Wild. Trophée Norris, c'est Quinn Hughes, c'est Cale Makar ou est-ce qu'il y a un autre joueur qui peut s'insérer dans la course? T'sais, Roman Josi a eu une bonne fin de saison, Evan Bouchard, Victor Hedman qui a dû prendre la relève de Sergachev du côté de Tampa Bay. Même Adam Fox ou Noah Dobson, on en a parlé un peu plus tôt. C'est des beaux noms, c'est des belles fiches, c'est des beaux candidats, mais est-ce que c'est une course à deux chevaux?
Absolument. Moi, je pense que... Tu sais, pour faire changement, là, parce que Cale Makar, je pense que va en gagner plusieurs autres là, au cours de sa carrière, mais tu regardes les chiffres avec la comparaison avec Quinn Hughes. Les chiffres sont presque similaires. Temps de jeu de 24-42 pour Hughes, 24-49 pour Kermakar. Le nombre de points, 88 pour Hughes, 87 pour Kermakar. Au niveau du différentiel, excusez, plus 39 Quinn Hughes, plus 15 Kermakar. C'est quand même une bonne différence, même si, bon, je sais qu'il y en a qui ne sont pas fans de cette statistique du différentiel, mais...
Ça vaut ce que ça vaut.
Ouais, exactement.
C'est un indicatif.
Exact. Mais moi, j'y vais avec Quinn Hughes parce que c'est une saison phénoménale pour lui. Je pensais pas, honnêtement, je voyais les premières saisons, mais je pensais pas qu'il allait être capable d'atteindre ce niveau-là, le niveau d'un Kermakar, en tout cas de sitôt. Il l'a fait cette année, puis pour moi, ce serait mon vote de première place, Quinn Hughes des Canucks.
Même chose pour moi, Quinn Hughes, je crois que c'est le trophée
toi,
lui
revient. Toi, tu lui donnais le trophée Hart.
Je continue de croire que Hughes devrait être aussi un candidat pour le Hart. Est-ce qu'on aurait cru possible de voir les Canucks connaître une aussi bonne saison? La réponse est probablement non, mais Hughes a tellement joué du bon hockey qu'il a amené cette équipe-là à un autre niveau. Mais grosse mention honorable aussi pour deux autres défenseurs. Oui, on parle de Hughes, on parle de Makar, mais Victor Hedman, qui joue sans Sergachev du côté de Tampa Bay depuis plusieurs semaines. Hedman, 76 points en 75 matchs, mais c'est pas juste le nombre de points, c'est toutes les missions qu'on va lui confier du côté du Lightning. Et aussi Roman Yossi. Je trouve que Roman Yossi passe trop souvent dans l'ombre année après année. Cette saison, c'est 80 points en 79 matchs. Même chose aussi, si on parle de joueurs plus utiles à son équipe, Roman Yossi, oui, il y a Yussi Saros, oui, il y a peut-être Ryan O'Reilly, Philip Forsberg, mais Yossi est le moteur, c'est le cerveau des Prédateurs de Nashville. Il se dirige vers une autre saison là, de 85 points. C'est du gros hockey.
Puis j'ajouterais, c'est lors de la fameuse séquence de victoire des Predators, c'est lui qui s'est levé avant tout le monde. C'est lui qui a été à la tête. Je pense que c'était le meilleur marqueur même des Predators, alors que tu es un défenseur. Yossi est une... Je vais dire Quinn Hughes aussi pour tout ce que vous avez mentionné. Mais Yossi est là, Edman est là aussi. On le sait, là, nous, l'exercice là, qu'on fait à... Qu'on fait au LNH.com, là, on doit envoyer 5 candidats. Là. C'est sûr que Yossi va être assez haut sur ma liste. Tout comme Edmund, ben là, ben, il va être 4e probablement. Donc, c'est plutôt bas sur ma liste. Mais en tout cas, vous comprenez où je m'en vais avec ça. En terminant, trophée Jack Adams, remis au meilleur entraîneur de la Ligue. Là, c'est tout à le débat. Est-ce que c'est celui qui permet à son équipe de terminer en haut du classement ou c'est celui qui permet à son équipe de causer la surprise? Il y a quelques candidats intéressants. On vient d'en parler, les Predators, Andrew Brunette, cette équipe-là. Au dire de plusieurs, on se souvient, on aurait acheté le contrat de Matt Duchene, on aurait acheté le contrat de Ryan Johansson. Non, excusez, on a échangé Ryan Johansson à l'Avalanche et les Flyers qui ont racheté le contrat finalement de Johansson. Mais on n'attendait pas les Predators. Brunette qui a relancé cette équipe en milieu de saison. Est-ce que Peter Laviolette, à sa première saison avec les Rangers, va terminer au sommet du classement comme ça devrait, là, mérite ce trophée-là? Même chose du côté de Dallas avec Pete DeBoer. Est-ce que Chris Knobloch, qui est arrivé en plein milieu de la saison avec les Oilers puis a relancé cette équipe-là, est-ce que ça vaut le titre du trophée Jack Adams? Et on parlait de Quinn Hughes, on n'attendait pas nécessairement les Canucks. Ça a été très difficile l'année dernière. Rick Tocchet, depuis qu'il a pris la relève à Vancouver, ça va très bien. Avez-vous d'autres candidats? Je vous écoute.
Moi, c'est ton dernier que j'avais au sommet de ma liste. Rick Tocchet, c'est une différence. Pour le moment, il y a 21 points de différence entre l'année dernière et cette année chez les Canucks. Il a pris la relève en janvier 2023. Là. Ça fait quelques mois. Puis tu regardes la manière dont cette équipe-là jouait avant son arrivée. C'est une équipe, justement, qui connaissait des moments très difficiles. Il a été capable de renverser la vapeur. Puis cette année, il a continué de bâtir. Je pense que les Canucks, en fin de saison, l'année dernière, avaient connu une très bonne fin de saison. On a continué de bâtir sur cette fin de saison-là cette année. Puis moi, ça, c'est mon vote. Oui, les éléments étaient en place, mais de voir à quel point ce noyau-là connaissait des difficultés avant son arrivée, puis de voir comment il a réussi à transformer cette équipe, je lui donne à Rick Tocchet. T'sais, comparativement, mettons, à un Peter Laviolette avec les Rangers, où les éléments sont là, puis... ça fonctionne bien malgré, peut-être en série, tu sais, il y a eu quelques déceptions, là, mais j'aime ça comparer où l'équipe était avant l'arrivée de l'entraîneur, puis maintenant qu'il est avec l'entraîneur. Puis c'est pour ça que mon vote va à Rick Tocchet.
C'est un bon choix, Rick Tocchet. Moi, je pense à un autre Rick. Rick Bowness du côté des Jets de Winnipeg. Je pense que dans les 8 noms, Nicolas, que tu as pu mentionner, Bowness n'en faisait pas partie. Je ne sais pas que je suis pas d'accord avec ta liste.
J'ai rien contre lui. Les anciens joueurs-entraîneurs des Canadiens de Sherbrooke, j'ai beaucoup d'admiration pour eux. Là.
Non, mais si on recule au mois de septembre, on pouvait imaginer une saison de reconstruction pratiquement du côté des Jets. C'était une équipe qui avait pris la décision d'échanger Pierre-Luc Dubois. On disait bye-bye à Blake Wheeler, qui était peut-être plus le bienvenu dans ce vestiaire-là. Et les Jets ont déjà plus de 100 points, 102 points. J'aime aussi la candidature, même s'il a gagné l'an dernier, j'aime encore la candidature de Jim Montgomery. Se retrouver avec une ligne de centre sans Patrice Bergeron, sans David Krejci, et les Bruins ont maintenu le niveau d'excellence. Ils vont probablement terminer la saison avec 100, un petit peu plus que 110 points. Ils sont déjà à 107. Mais si on recule l'horloge, là, puis on se place le 22 février, on aurait probablement tous répondu John Tortorella. Mais John, ça vient de s'évaporer, n'aura pas le trophée Jack Adams.
Ouais, c'est un des deux excellents points que tu amènes. J'avais pas pensé à Montgomery. Bonus, j'y avais pensé, là, mais Montgomery, j'y avais pas pensé. Effectivement, Tortorella était très haut sur ma liste. Non, ça va être... effectivement, je pense que je penche un peu du côté de Rick Tocchet, mais Andrew Brunette est très haut sur ma liste aussi. Donc, non,
mais je trouve
pas...
que le Jack Adams, c'est souvent le trophée du retour. L'équipe Cendrillon, l'équipe surprise. Rarement aussi, on va y aller avec l'équipe qui domine, qui gagne la Coupe du Président. Donc, Andrew Brunette peut avoir de très bonnes chances de partir avec ce trophée. Donc, je serais pas surpris non plus si Andrew devait l'emporter.
Oui, je pense que ça va être la catégorie la plus serrée au niveau des votes des panélistes. Messieurs, avant de terminer l'émission, je veux parler un peu de ce qui s'est passé du côté des séries éliminatoires, de la LHJMQ. Première ronde qui a dû passer, grosse surprise avec l'élimination des Moussets d'Halifax en 4 matchs. Là, les Moussets qui avaient terminé au deuxième rang dans l'Est. Là. Donc, Guillaume, comment ça s'est passé cette première ronde-là et à quoi on doit s'attendre?
Ben là, les Moussets d'Halifax, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui auraient parié sur une élimination au premier tour contre le Titan de Caddy Batters qui avait terminé 25 points derrière au classement, surtout pas en 4 matchs. Mais bon, quand on creuse un peu, on pose des questions, tout n'était pas au beau fixe dans ce vestiaire-là. Il y a eu le texte du collègue Kevin Dubé du journal qui faisait mention de Jordan Dumais, Jake Furlong, un bon défenseur qui avait demandé des transactions à la date limite des transactions parce qu'il était pas, il avait pas confiance que cette équipe pouvait gagner. Donc, tout ça...
C'est pas bon quand t'es dans les meneurs de ta section quand tes meilleurs éléments veulent s'en aller, là.
Exact. Puis c'est une équipe qui était en finale l'année dernière, là.
Oui.
C'est quand même surprenant de voir, tu sais, quand on parle beaucoup des cycles dans le hockey junior majeur, puis les Moussets étaient rendus au sommet, là. C'est une occasion gaspillée pour eux. Chapeau au Titan d'Acadie Batters, par contre, qui a réussi à profiter de peut-être ces lacunes-là. Donc ça, c'est vraiment la surprise du premier tour. Pour le reste, j'ai parlé avec Thomas Desruisseaux, qui est un espoir admissible au prochain repêchage, 87e sur la liste demi-saison du Bureau central de dépistage. Lui a mené les Saguenayens avec 8 points dans un balayage en 4 matchs contre les Wildcats de Moncton, qui avait terminé pourtant 5 points devant les Sags au classement. Les Saguenayens qui sont honnêtement...
Mais qui ont connu une bonne fin de saison là, quand même. Là. C'est une jeune équipe, les Saguenayens.
Oui, c'est un jeune noyau qui vise pas pour l'an prochain, pour l'année suivante. Donc là, on est un peu en avance sur le cycle. Ça performe très bien. On avait terminé la saison avec 16 victoires, 3 défaites, une défaite en prolongation à nos 20 derniers matchs. On poursuit en série avec un balayage au premier tour contre une équipe qui était techniquement là, une année... devant
en avance,
en termes de cycle. Tu m'avais demandé des surprises, Nick, au dernier podcast, puis je t'avais nommé les Saguenayens pour Oh boy, pas comme surprise, mais comme... Ouais, ouais, non, mais là, il faut quand même...
Il l'avait prédit.
Gonfler,
c'est ce
gonfler,
mais... C'est ça. Gonfle tes pneus.
Non, non, je veux pas dire que je l'avais prédit, mais je veux mettre de l'emphase sur le fait qu'il faut surveiller les Saguenayens de Chicoutimi dans ces séries-là. Là, vont se mesurer aux Eagles du Cap-Breton, qui sont quand même une des bonnes équipes de cette ligue-là, menée par Louis Robitaille, qui est un entraîneur d'expérience. Ça va être un bon défi. Mais il faut surveiller les Saguenayens. Puis pour revenir à Desruisseaux, ben saison en dents de scie, pas vraiment très spectaculaire au niveau de la production, mais en séries éliminatoires, je parlais avec Yannick Jean, l'entraîneur des Sax, qui me disait qu'il a vraiment monté son jeu d'un cran. Puis c'est un fabricant de jeu, il est reconnu pour sa vision et tout ça. Il a vraiment amené ça à un autre niveau. Puis c'est ce qui a permis, entre autres, aux Saguenayens de passer au deuxième tour comme ça, de façon... plutôt facile. Là.
On peut lire ton texte avec Desruisseaux sur LNH.com. Les autres séries en deuxième ronde, donc de Raccord de Bécomo qui va affronter le Titan de Cats Batters, et Husky de Rouyn-Noranda qui vont affronter les Tigres de Victoriaville, et une série de la 55, là, Drummondville contre Sherbrooke avec, bien évidemment, Ethan Gauthier qui va être au centre de tout ça. Il était avec Sherbrooke dans les dernières années. Il a atteint le Phoenix a atteint les demi-finales deux fois. Et là, se retrouve à l'autre bout de la 55. Pas à l'autre bout de la 55, au milieu de la 55. En terre de la poutine à Drummondville. Oh là, je viens d'insulter tout le monde à Victoriaville et Warwick, mais désolé. Mais tu as parlé à Gauthier. C'est un texte qui va paraître demain du côté de notre site web sur lnh.com. Comment il vit ça? C'est quand même un des meilleurs joueurs de la Ligue qui se retrouve maintenant dans le siège inverse là, un peu, là.
Ouais, puis tu sais, les voltigeurs, depuis le début de la saison, on vise les grands honneurs, on s'en cache pas. Ethan Gauthier a vécu deux déceptions là, dans les dernières années en demi-finale, alors qu'on pensait que le Phoenix allait être capable justement de franchir cette étape-là, de se rendre en finale. A vécu des éliminations hâtives. Maintenant, avec les voltigeurs de Drummondville, l'équipe de sa ville natale, un rendez-vous avec son ancienne équipe du Phoenix, ça va être pour lui, ça va être assez spécial. Et puis, ça arrive à un bon moment pour lui parce qu'en première ronde, amener les voltigeurs au chapitre des points, 4 buts, 4 passes en 4 matchs là, dans un balayage contre les Sea Dogs de Saint-Jean. Je parlais avec Sylvain Favreau qui l'a affronté, lui, l'année dernière. Il était derrière le banc des Moussettes d'Halifax. On a croisé le fer avec le Phoenix en demi-finale. Et puis, les Moussettes avaient eu le dessus en 6 matchs. Mais Sylvain Favreau dit, moi, le trio qui me faisait peur du côté de Sherbrooke, oui, on avait les Joshua Roy, on avait beaucoup de gros noms, mais c'était le troisième trio qui était avec Ethan Gauthier, qui venait comme une troisième vague, qui embarquait puis qui amenait de l'énergie, qui frappait. Il dit, j'ai revu ce Ethan Gauthier-là dès le début des séries. Premier match, a distribué une grosse mise en échec pour réveiller les siens. Puis à partir de ce moment-là, ben ça a été... les voltigeurs qui ont filé vers la victoire. Donc, Ethan Gauthier va être, comme tu l'as dit, au cœur de cette série-là. Ça risque d'être assez intéressant là, pour l'espoir du Lightning de Tampa Bay.
Donc, le texte avec le choix de deuxième ronde au dernier repêchage du Lightning de Tampa Bay. Gauthier qui va être disponible demain sur lnh.com. Messieurs, c'est ainsi qu'on met un terme au balado. Gros merci d'avoir été là aujourd'hui.
Toujours un plaisir, vous, boys.
Toujours un plaisir de vous avoir. Prochain balado, j'en parlais en début d'émission. Prochain balado, ça ne sera pas mercredi prochain. Les séries éliminatoires vont être à nos portes. Donc, ça devrait être publié logiquement, là, tout dépendant des courses se terminent quand. Là, mais soit vendredi matin ou jeudi soir, si vous voulez nous écouter tardivement. Je vous suggère vendredi matin, là, bien évidemment. Alors, ce sera disponible là, sur toutes les plateformes de diffusion de balado. Donc, n'hésitez pas, suivez-nous. La tasse de café LNH, vous allez être informé. Soyez une petite alarme qui va sonner lorsque le balado sera disponible. Suivez-nous aussi sur nos réseaux sociaux. LNH sur Facebook, LNH barre de soulignement FR sur Twitter, Instagram et X. Encore une fois, merci messieurs d'avoir été là aujourd'hui.
Merci, à bientôt.
Et chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.